France Inter. .fr.
Votre invité Léa Salamé ici à la BNF est un homme de culture qui a été ministre de la culture.
Eh oui.
Bonjour Frédéric Mitterrand.
Bonjour Léa.
La semaine de la francophonie s'ouvre dans la tristesse après l'attentat hier qui a visé l'un des plus grands pays francophones. Quand la Côte d'Ivoire est frappée, est-ce que c'est aussi un peu la France qui est touchée?
Bien sûr, puisque ça s'est passé à Grand Bassam, qui est une ville qui a une tradition d'accueil des Français et des touristes. Il est inévitable que Daesh et tous ses satellites, qui d'ailleurs se tirent aussi les uns sur les autres, en difficulté, semble-t-il maintenant, multiplient les attentats partout, et notamment contre la France. Vous savez, c'est l'histoire de l'animal traqué qui devient encore plus dangereux à ce moment-là.
Jusque-là, et vous avez entendu l'édito de Dominique Seux, jusque-là, l'Allemagne était un des rares pays épargnés par la montée de l'extrême droite qui touche toute l'Europe, ou presque toute l'Europe.
Parce que l'Allemagne était un exemple de démocratie. Après l'horreur de l'entre-deux-guerres et du nazisme, l'Allemagne est devenue le pays le plus démocratique d'Europe.
Oui, sauf que depuis hier, eh bien, démocratie oblige. Pays anti-euro, anti-migrant, fait son entrée dans les parlements régionaux d'Allemagne et met en échec la politique d'Angela Merkel. Est-ce que la chancelière a raison de continuer à défendre coûte que coûte ses convictions, c'est-à-dire l'accueil des migrants?
En tout cas, ce que je sais, c'est que nous n'avons pas raison de ne pas être assez proche d'elle. Et ce qui, moi, me frappe, c'est que Angela Merkel a adopté une position extrêmement forte, soutenue par Juncker et par quelques-unes des personnalités les plus intéressantes et les plus porteuses de l'Europe pour notre avenir, et que nous, Français, nous sommes vraiment un peu en arrière de la main auprès d'elle. Heureusement que nous avons un ministre des Affaires étrangères maintenant qui est germanophone et qui aime l'Allemagne, ça arrangera peut-être un peu les choses.
Valls a tort dans cette affaire ?
Je suis pas venu pour donner des bonnes et des mauvaises notes à tel ou tel ministre. Je pense que son caractère un peu vif fait que il s'est laissé emporter d'une manière, je trouve, assez impolie en tout cas. Lorsqu'il a critiqué l'attitude d'Angela Merkel en Allemagne même.
À Munich.
Mais bon, c'est juste sur ce plan-là, parce que j'ai par ailleurs beaucoup d'estime pour lui.
En cette semaine de la langue française, on va parler un petit peu de ça, Frédéric Mitterrand.
Oui, parce que je suis venu pour ça. J'ai apporté une lettre formidable. Justement. Une lettre de Madame Andy Goyer. J'en reçois à peu près chaque semaine des lettres comme ça.
Et qu'est-ce qu'elle vous écrit?
Elle me dit tout ce sur quoi je suis d'accord, c'est-à-dire la disparition de la forme interrogative. Hein. C'est quoi cette émission, Patrick Cohen, hein? Par exemple, bon. Alors, la disparition de la forme interrogative, c'est toute la journée, ça, à la radio. On entend ça tout le temps. Disparition, agonie du subjonctif, hein. Le subjonctif qui est pourtant un temps absolument magnifique, puisque dans notre langue française, il exprime le souhait, le rêve. Voilà, c'est quelque chose de vraiment subtil, de vraiment intelligent. Bon. Agonie du subjonctif.
Mais quand vous
agonie du futur, hein. Agonie du futur.
Du futur, c'est
oui,
joli,
je te,
ça.
Je t'appelle quand je rentre. Oui. Ouais. Alors qu'on devrait dire, je t'appellerai quand je rentrerai. Voilà, ouais. Par exemple.
Et quand vous entendez les hommes politiques, Nicolas Sarkozy ou François Hollande en tête, faire mal à
Léa
la syntaxe.
Léa Salamé, elle parle bien.
Hein, oui. Voilà. La France, elle
Léa
a mal.
Salamé, oui. François Hollande et Nicolas Sarkozy, sur ce plan-là, se font une concurrence extraordinaire. La première, elle est partie. L'émission, elle est formidable. C'est pas plus simple de dire l'émission est formidable.
Alors, est-ce que ça contribue à l'affaiblissement de la politique en général, de l'homme politique, de massacrer la langue française?
Oui, parce que par ailleurs, il parle un langage fleuri et une langue de bois absolument incompréhensible aussi. Donc, c'est un mélange. Il y a une chose extraordinaire. Si vous écoutez, par exemple, Ségolène Royal quand elle passe, quand elle est interviewée, vous rentrez dans une sorte de tunnel de langue de bois extraordinaire. Vous ressortez, vous avez la tête en carton, vous allez écouter pendant une demi-heure, vous savez pas ce qu'elle a dit. Bon, alors, ça n'empêche pas qu'elle est une politicienne compétente, certainement. Mais je veux dire, il y a à la fois la disparition d'un certain français et le recours à la langue de bois permanente qui est aussi une autre disparition du français.
Alors,
en fait.
La langue de bois et le langage fleuri des hommes politiques, c'est un peu nouveau quand vous entendez Nathalie Kosciusko-Morizet parler
de... Est-ce que c'est nouveau?
Je ne sais pas si c'est nouveau.
Depuis le de Champignac.
Greffage de couilles.
Non, depuis le maire de Champignac dans Spirou, on est habitué à la langue de bois des politiques. Non, mais quand par exemple...
Najat Vallaud-Belkacem qui parle de bruit de chiottes, Mélenchon qui disait « j'ai craché ma race ».
Et une ministre qui termine son interview par « et merde ». Non, mais enfin, je veux dire, les bras vous en tombent. Les bras vous en tombent d'entendre des choses pareilles.
Ça vous heurte? Pour vous, c'est pas moderne, c'est vulgaire?
Ben oui, c'est vulgaire quand même. Il faut bien reconnaître.
Notre langue française est parlée par 250 millions de personnes dans le monde.
Peut-être plus.
Peut-être plus. On l'espère plus. Elle contribue au rayonnement de la France, de notre culture dans le monde. Et pourtant, il y a toujours un petit snobisme.
Ça,
c'était
la langue de bois, là, Léa.
OK. Hein,
là, vous êtes complètement langue de bois.
Oui, mais d'accord. Est-ce qu'il n'y a pas un petit snobisme de vous, de moi, des Français, sur la francophonie en général?
Snobisme? Non. Moi, je pense que la première chose à faire pour défendre la francophonie, c'est d'essayer de parler le français le mieux possible. Et Dieu sait s'il est presque indispensable de faire des fautes. C'est normal, c'est une chose qui est vivante, la langue. Et puis, ensuite, ne pas être dans une attitude victimaire permanente en disant « Ah, la pauvre francophonie, on est écrasé par les Anglais, etc. » C'est pas vrai. Jamais autant de gens n'ont parlé français à travers le monde.
Vous n'aimez pas la langue de bois?
Allons-y.
Audrey Azoulay, la nouvelle ministre là, qui vous remplace à la rue de Valois.
Il y en a eu quelques-uns. Il y a eu des intermittentes entre-temps.
Oui, hein. Des intermittentes, comme vous dites. C'est une bonne ministre, vous la connaissez?
Elle est belle, en tout cas.
C'est tout ce que vous retenez. Là, vous allez faire sursauter toutes les femmes qui vous écoutent. On parle
oui,
de
sexisme.
Oui,
il paraît qu'il faut plus jamais dire ça. Non, mais...
Sur Fleur Pellerin, vous disiez, n'est que l'expression d'un système, un système où les hommes politiques ne lisent plus.
Oui, je suis pas pour le Fleur Pellerin bashing. Vous voyez le francophone que je suis. Elle a fait une erreur. On l'a embêté à Rousseau pendant deux ans à propos de ça. Non, mais pour revenir sur Audrey Azoulay, que ne l'a-t-il nommée tout de suite? Hein, c'est certainement, elle a tous les atouts et les capacités pour être une grande ministre de la culture. Et il fallait la nommer tout de suite.
C'est avant Fleur Pellerin?
Avant Aurélie Philippe
Lévetti.
Oui, peut-être.
Voilà, pas de langue de bois ce matin, vous l'aurez compris. Frédéric Mitterrand était notre invité en cette belle salle ovale de la BNF.
Merci Frédéric Mitterrand. Merci Léa Salamé, il est 8h-2.